Comment mieux vivre au XXIe siècle sur Africa Radio.
Dans certaines banlieues françaises règne paix et harmonie. D'autres sont trop souvent pointées du doigt, médiatisées, décriées pour plusieurs raisons. Comment mieux vivre en banlieue? Des pistes avec Farid Temsamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus, cofondateur du think tank France Fière. Bonjour Farid.
Bonjour.
Avec vous, nous allons donc parler de l'état des banlieues, comment mieux vivre en banlieue, comment on lutte contre les discriminations dans ces banlieues et surtout, comment mobiliser les banlieues à quelques mois de la présidentielle, à 3 mois de la présidentielle française. Mais avant ça, votre parcours, votre vie, je le disais, vous êtes porte-parole de l'association Banlieue Plus. Que fait cette association?
C'est une association qui a été créée maintenant il y a plus d'une dizaine d'années par Nadir Kaya, du côté historiquement de Gennevilliers. Oui. L'idée était très simple, c'était de proposer et promouvoir un certain nombre d'actions qui puissent donner une autre image de la banlieue. Puisque malheureusement, déjà à l'époque, et on va en parler tout à l'heure, mais ça n'a pas forcément changé, mais oui, l'image que la banlieue renvoie très souvent est parfois très négative. Et donc du coup, Nadir Kaya avait l'idée de lancer ça pour pouvoir un peu changer la donne. Mm-hmm. Et donc du coup, moi et d'autres militants, on l'a rejoint dans cette aventure. Et on fait un certain nombre d'opérations sur certains territoires de manière à pouvoir donner une autre image. Mmh. La plus médiatique d'entre elles, malheureusement, ça reste les maraudes solidaires, par exemple, où nos bénévoles circulent sur la région parisienne, notamment le week-end, pour pouvoir justement venir en aide aux plus dépourvus, notamment les sans-domicile fixe. Mais on a d'autres types d'actions, comme du conseil à l'entrepreneuriat, du conseil juridique. À une époque, avant la crise sanitaire, on faisait beaucoup de rencontres-débats sur ces sujets-là. Voilà, tout ce type d'actions avec les militants et leur disponibilité, bien sûr.
Alors, vous avez grandi en banlieue, Farid? Dans quelle banlieue, d'ailleurs?
À Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, précisément. Le bout du monde. J'y ai grandi, j'y suis toujours très attaché. Mm-hmm. Bon, Mantes-la-Jolie a la particularité d'être, à l'époque en tout cas, la plus grande ZUP d'Europe, puisque c'est plusieurs quartiers dans un seul quartier qui s'appelle le Val-Fauré.
Oui, et très célèbre aussi.
Voilà, ça avait toujours un peu plus de 20 000 habitants dans un seul quartier, qui est beaucoup.
Un quartier qui a changé de visage depuis une trentaine d'années.
On a vu, comme beaucoup de nos auditeurs, on a vu un peu le quartier un peu se détériorer avec la crise fin des années 80, début des années 90, où en fait, il y a une première explosion, on va dire, avec les quartiers, notamment de la région lyonnaise, et Mantes-la-Jolie, juste après, une explosion sociale de ces quartiers-là, mm-hmm. avec à l'époque des émeutes. Et puis ça s'est pas forcément arrangé. Et puis on l'a vu après, malheureusement, dans d'autres territoires, avec toutes les difficultés que l'on connaît et qu'on va aborder, qui se sont accrues, qui se sont enchaînées et qui aujourd'hui, très clairement, on a presque même envie de dire, on a appris à vivre avec.
Quoi. Alors justement, comment est la vie en banlieue aujourd'hui?
Elle est difficile, mais en même temps, elle est formidable. Parce que on parle très souvent de choses négatives. Mais bon, faut dire, la réalité...
Vous en êtes un exemple. L'une des premières choses positives, c'est quand même l'élan constant de solidarité en banlieue.
Exactement. Et ça, on le voit dans tous les quartiers populaires de France. Oui. C'est-à-dire que la difficulté sociale, l'histoire des uns et des autres, parfois, même très souvent, de populations immigrées, fait qu'en fait, ça développe un élan de solidarité extraordinaire. Et ça, il faut quand même le souligner. Moi, je le dis très souvent, par exemple, en France, à l'échelle nationale, on dit que nous sommes un pays très associatif, où il y a beaucoup d'actions, d'associations un peu partout. Et ben, cet élan-là, il est beaucoup plus important dans les quartiers populaires qu'ailleurs, tout simplement. Pourquoi? Parce que, malheureusement, les difficultés, mais également le fait de prendre le relais de l'abandon, parfois, de l'État, faut le dire, ou des collectivités publiques, fait qu'en fait les militants, mais tout simplement les habitants de ces quartiers-là, se prennent en main très souvent et essayent de faire bouger les lignes, essayent de proposer des choses. Alors c'est pas toujours évident, faut pas se mentir, les difficultés elles sont telles, mais voilà, il y a beaucoup de liens associatifs dans ces quartiers-là et ça a toujours existé.
Quelles sont les plus grandes difficultés qui aujourd'hui pourraient pourtant trouver leur solution?
Alors essayé, j'avais utilisé le terme marrant, qui n'est pas forcément le plus approprié, mais pendant très longtemps, l'énorme difficulté de ce qu'on appelle les quartiers populaires ou la banlieue, c'était d'être excentré vis-à-vis du reste des communes, le reste du centre-ville par exemple. Si je prends Mantes-la-Jolie, le quartier physiquement est vraiment excentré par rapport au centre-ville et donc par rapport à des infrastructures, que ce soit le transport, que ce soit les médecins, les hôpitaux, plein de choses comme ça.
Oui.
Alors, il faut quand même avouer que depuis la rénovation urbaine, beaucoup de ces choses-là, en fait, ont un peu évolué.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
les banlieues sont plus connectées.
Accessibles, connectées.
Ouvertes, exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis.
Oui.
Aujourd'hui, il y a d'autres formes. Elles ont existé dans le passé. Il y a aujourd'hui encore plus de soucis et qui sont essentiellement, en tout cas, si on devait les résumer, qui sont d'ordre du logement, le social.
Oui.
La difficulté sociale des habitants des quartiers populaires est très souvent très forte.
Mm-hmm.
Vous avez l'éducation, l'éducation nationale, où c'est un parent pauvre dans nos quartiers populaires par rapport au reste du pays.
Oui.
Et donc, vous avez toutes ces choses-là qui font que la vie est parfois très difficile. Mais il faut aussi comprendre que les habitants des quartiers populaires dans les années 70, 80, 90 n'est plus exactement celle d'aujourd'hui. Il y a aussi une évolution dans cette population-là. Alors, bien, pas bien, il y a eu une évolution qui fait qu'en fait, on a, au lieu de s'élever pour sortir ces quartiers-là vers le positif, vers le meilleur, on a très souvent paupérisé ces quartiers-là. Je vais donner un exemple. Et j'en suis l'illustration, mais c'est le cas, à mon avis, de beaucoup de nos concitoyens. C'est tout simplement le fait que lorsque vous élevez socialement, c'est-à-dire que vous êtes enfant d'ouvrier, vous avez fait un petit peu d'études, vous rentrez dans le monde professionnel et vous gagnez un peu mieux votre vie que celui de votre papa ou votre maman.
Oui.
Bon, donc deux solutions s'offrent à vous, c'est soit de continuer à vivre dans le quartier, qui est largement possible, soit tout simplement partir peut-être pour un meilleur habitat, tout simplement, parce que le logement en quartier populaire, c'est aussi difficile.
Oui.
Et il y a eu des actions des gouvernements précédents, notamment, qui ont eu des conséquences néfastes, alors qu'en fait, l'idée était plutôt bonne. Mmh. Je vais donner un exemple sur le logement, par exemple. Aujourd'hui, quand vous gagnez le logement, les loyers des logements sont notamment assujettis, notamment à vos salaires.
Oui.
Nos parents avaient des salaires très faibles. Donc du coup, il était normal que les loyers étaient faibles. Aujourd'hui, quand vous êtes enfant d'immigré, petit enfant d'immigré, que vous travaillez un peu mieux que vos parents d'un point de vue du salaire, eh bien, vous êtes surcoté en termes de loyer.
Oui.
C'est-à-dire qu'on vous rajoute une surcote parce que l'idée étant de réserver les loyers, les HLM, ou en tout cas ce type d'appartement, aux personnes les plus vulnérables, les plus faibles, ce qui est tout à fait normal.
Oui,
mais l'effet inverse, ou en tout cas la difficulté, c'est qu'en parallèle, ça a fait partir des gens qui commençaient à devenir la classe moyenne, si vous voulez.
Oui.
Donc eux, ils vous disent, mais pourquoi je vais payer un loyer aussi cher pour ce type d'habitation, alors que je peux avoir, pour le même prix, quelque chose de beaucoup plus moderne, de meilleur. Et donc du coup, ça a fait partir ces gens-là.
Oui.
Et ce qui amène, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la paupérisation de ces quartiers-là, c'est aussi une réalité. Je ne dis pas que c'était la volonté première des gouvernements quand ils ont mis en place cette surcote, mais en tout cas, une des conséquences, elle est celle-ci, tout simplement.
Alors justement, on parlait tout à l'heure d'infrastructures et on en parle toujours. Hein. Comment on pourrait améliorer les infrastructures en banlieue pour éviter justement les trop fortes concentrations de population, pour éviter aussi certaines dérives, les dérives comportementales, on va dire.
Et sur deux thématiques qui sont, on va parler des infrastructures globales, les services publics dans leur ensemble. En réalité, dans les quartiers populaires, ils sont beaucoup plus faibles qu'ailleurs. Si on prend la concentration de population.
Oui.
En clair, je vais vous donner un exemple, il y a moins de piscines par nombre d'habitants dans les quartiers populaires que dans Paris, si je prends l'exemple. Il y a moins de policiers, par exemple, dans les quartiers populaires, contrairement à ce que l'on pense, par rapport à d'autres villes, d'autres types de territoires.
Mmh.
Donc tout ça, rajouté à ça, ça fait qu'en fait, on est en manque d'infrastructures.
Oui.
Et après, il y a un élément qui suscite le débat. Hein. Je n'ai pas dit que c'était forcément la solution.
Oui.
Moi, je suis favorable, par exemple, à accélérer la rénovation urbaine. C'est-à-dire qu'on ne peut plus garder des tours comme dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Pour moi, il faut pas avoir peur. Alors c'est très compliqué parce que quand on y vit, quand on y a grandi, on a notre histoire, on a nos liens, on a nos habitudes.
Ouais, mais le plus compliqué, c'est surtout de reloger après ça, parce que c'est comme vous avez utilisé le verbe accélérer, parce qu'effectivement, c'est déjà des processus qui ont commencé dans les villes. Tout le monde ne joue pas le jeu, effectivement.
Exactement.
C'est très lent parce qu'il faut reloger ces personnes.
En fait, il y a deux difficultés. Il y a une difficulté, vous avez complètement raison, elle est le relogement de ces gens-là. Et le problème, c'est que lorsque vous êtes issu de ces territoires-là, je vais donner un exemple. Quand on a une barre d'immeubles avec 100 logements et que on dit bon bah on ne peut plus accueillir 100 familles au même endroit parce que c'est invivable, parce que c'est compliqué pour différentes raisons. Bon, on détruit par exemple la tour, on reconstruit quelque chose mais avec beaucoup moins de logements, exemple la moitié, sauf qu'il faut reloger les êtres humains qui étaient là. Et où est-ce qu'on les reloge traditionnellement ? Traditionnellement, on ne peut pas les reloger dans la même ville. Donc du coup, on les fait partir un peu ailleurs, ce qu'on appelle directement ou indirectement, le phénomène de gentrification, en réalité. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que vous avez de la pression immobilière, des promoteurs immobiliers qui vient profiter de ça, et vous avez aussi des gens qui se rendent malades parce que quand vous avez vécu 20 ans, 30 ans dans une tour, et que du jour au lendemain, on vous dit, bon voilà, vous allez devoir partir, mais vous allez partir à 20 km, 30 km d'ici, c'est très violent pour les gens. Mmh. Et en même temps, malheureusement, on est obligé de le faire, je pense. Mmh. Et puis, il y a autre chose. En fait, les loyers sont beaucoup plus élevés. Ce qui fait que vous avez un certain nombre de vos parents qui disent, je préfère garder mon 5 pièces, mon 6 pièces, d'une certaine manière, au 10e étage du bâtiment, même si ça me galère, parce que ça me coûte 3 fois moins cher que si je partais sur un appartement au rez-de-chaussée ailleurs. Mmh, Et puis, il y a un autre élément. Là, du coup, je vais être un peu polémique, mais c'est que parfois, vous avez des intérêts politiques, très, très concrètement. C'est-à-dire que lorsque vous avez une population faible, mais vous êtes sûr d'avoir un électorat, une niche électorale, vous savez que ces gens-là votent pour vous, pourquoi vous allez supprimer les appartements pour les faire partir ailleurs ? Vous n'avez aucun intérêt à le faire.
Alors, deux dernières questions pour terminer sur cette première partie. Qu'est-ce qui pourrait apporter plus d'harmonie en banlieue ? Et est-ce que, comme vous l'avez indirectement évoqué tout à l'heure, pour mieux vivre au sein de sa banlieue, il faudrait peut-être en sortir un peu plus ?
Le quartier, au sens large, c'est un peu un aimant. Quand on est dans un quartier, en fait, c'est compliqué de sortir de son quartier, de se donner, non pas les moyens, mais de se donner l'envie de partir. Or, vous ne pouvez pas évoluer pour différentes raisons, socialement, économiquement, en termes d'amis, de tout ce que vous voulez, pour votre équilibre personnel, si vous ne partez pas, si vous ne connaissez pas autre chose. Mmh. Et ça, c'est une grosse difficulté aujourd'hui. On a plutôt tendance à rester dans son élément par facilité, parce qu'on connaît tout le monde, parce que ceci, parce que cela. Et donc, du coup, on crée deux choses. On crée soi-même un entre-soi qui fait qu'on ne connaît pas l'autre, on ne connaît pas le reste de la France, le reste parfois même du département. Et la difficulté, c'est que les autres ne vous connaissent pas non plus. Donc, du coup, vous créez vous-même un ressentiment. Il y a un ressentiment chez les autres parce que les autres, ils vont s'imaginer que tous les gens des banlieues sont ceci, sont cela.
Alors, ça, on va y
avec
venir.
Tous les stéréotypes que l'on connaît.
Avec tous les stéréotypes qu'on connaît, effectivement, on va y revenir dans quelques instants. En terminant juste sur une note positive, alors, pour comment apporter plus d'harmonie en banlieue ?
Moi, je pense qu'il faut, se prendre en main, il faut s'investir dans différentes actions et faire parler de soi. Aujourd'hui, on a des outils de communication qui sont relativement accessibles à tout le monde. Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de sortir de son élément, de sortir, de faire des choses.
Comment lutter contre les discriminations quand on vient de banlieue ? C'est une très bonne question, n'est-ce pas, Farid ?
Exactement. Malheureusement, oui, c'est une très bonne question.
Les jeunes des quartiers populaires sont toujours autant discriminés. Emmanuel Macron a dit que la clé pour ces jeunes adultes de quartiers populaires, c'était l'entrepreneuriat plus que le salariat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ?
C'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos jeunes des quartiers populaires effectivement, sont davantage discriminés. Mais parce que ça vient, encore une fois, ça vient de très loin, ça vient déjà de l'éducation. Le système éducatif en France n'est pas du tout approprié à notre réalité des banlieues.
Quelle serait votre solution pour améliorer le système éducatif français ?
Moi, je pense qu'il faut mettre les moyens, tout simplement. C'est, je trouve ça hallucinant.
Les moyens pour mettre quoi, par exemple, en place?
Ah bah, une meilleure pédagogie, des meilleurs professeurs, tout simplement. Mmh. Aujourd'hui, vous avez des moyens matériels qui sont mis dans les quartiers, par exemple. Mmh. Mais force est de constater que notre système étant tellement élitiste, en réalité, nos quartiers populaires, en fait, on devrait y mettre beaucoup plus de moyens, en termes humains, j'entends. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, les classes dans les quartiers populaires sont réduites, par exemple, très souvent, à 20, si je dis pas de bêtises, entre 20 et 25 élèves par classe. On est, alors que le reste de la France, les élèves sont à 30, 35 très souvent. Bon, je caricature, mais
c'est vrai, c'est ce qui s'entend en tout cas.
Et ben, moi, je suis favorable à ce qu'on réduise davantage le nombre d'élèves par classe. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez 20, 24, un enseignant, même de bonne volonté, la réalité, il peut pas faire, il peut pas transmettre le meilleur des savoirs à autant d'élèves, si vous voulez. Et donc, du coup, moi, je suis favorable, parce que dans nos quartiers populaires, à toutes les tranches, pas que en maternelle, jusqu'à la fin, jusqu'au baccalauréat, on est des classes les plus réduites possibles. Et c'est le seul moment, c'est le seul moyen de pouvoir, si vous voulez, donner le maximum à chaque élève pour qu'il puisse réussir. Ensuite, sur l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on a fait beaucoup d'efforts. Je ne vais pas, vous le connaissez, mais quelqu'un qui a été un peu très très fort en la matière, qui l'est toujours, Moussa Camara par exemple, avec les Déterminés.
Oui, Moussa Camara a créé cette association, les Déterminés, pour accompagner les futurs entrepreneurs des quartiers populaires, effectivement.
C'est un travail extraordinaire. Mmh. Il faut donner cette volonté dans nos quartiers que l'on peut réussir, que l'on peut réussir.
Et que la réussite peut passer par soi en premier.
Exactement. Et du coup, transmettre ensuite. Mmh. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on est issu d'un quartier populaire, on a l'impression qu'il y a une certaine réussite qui n'est pas pour nous, en fait. Très souvent, quand, dans les quartiers populaires, on va dire, ben voilà, est-ce que tu peux devenir, je dis une bêtise, volontairement, je caricature, astronaute. Et ben, je peux vous garantir que très souvent, dans les classes, dans les quartiers populaires, personne ne le croit.
Personne ne se permet de rêver à devenir astronaute.
Exactement. Eh bien, ça, c'est ce qui nous manque un peu en France. Mmh. Et si je dois faire un comparatif, encore une fois, avec un pays qui est lui aussi a ses problèmes de discrimination très lourds et son histoire particulièrement forte, qui est les États-Unis, par exemple, un pays que je connais bien. Aux États-Unis, on peut rêver.
Oui.
Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on rêve qu'on va y arriver, mais on peut. Or, dans nos quartiers populaires en France, même le rêve, en fait, on se l'interdit. Et bien ça, moi, ça me gêne. Moi, ça m'embête, ça me fait du mal à chaque fois, parce qu'il n'y a qu'en rêvant qu'on peut essayer de faire quelque chose.
C'est en rêvant qu'on lève certaines barrières psychologiques, oui.
Exactement, tout simplement.
La crise sanitaire, en tout cas, elle a mis en évidence et elle a creusé davantage d'inégalités parmi les constats les plus flagrants. Eh bien, on a encore observé, encore et toujours, la discrimination à l'emploi qui renforce les sentiments de stigmatisation et d'exclusion auxquels sont confrontés les habitants des quartiers populaires. Vous êtes d'accord avec ce constat?
Malheureusement, oui. C'est une réalité. Hein. On l'a vu depuis le début de cette crise-là. Les personnes les plus touchées en termes de virus et surtout, malheureusement, de décès, ce sont très souvent des gens qui vivent dans les quartiers populaires ou enfants d'immigrés ou immigrés eux-mêmes. Bon, sociologiquement, ça peut s'expliquer, mais c'est une réalité. Il faut le dire que les quartiers populaires payent un lourd tribut à cette crise sanitaire. C'est une vérité. Ensuite, il y a aussi l'accès aux soins. Moi, je le vois encore aujourd'hui très souvent. L'accès aux soins, quand vous êtes issu d'un quartier populaire, est relativement faible.
Oui.
On n'a pas le nombre de médecins. Tout à l'heure, je parlais d'infrastructure.
Oui.
Je suis désolé. Le nombre de médecins par nombre d'habitants dans ces quartiers-là est très faible.
Ah oui, les déserts médicaux concernent aussi fortement l'Île-de-France, oui.
Complètement. Vous avez des déserts médicaux dans certains quartiers. C'est juste hallucinant. Et donc, du coup, encore une fois, on n'y met pas la volonté, si vous voulez, de corriger ça. Et une crise sanitaire comme celle-ci, eh ben, c'est violent. C'est violent, pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on cachait il y a encore quelques temps, on ne peut plus le cacher.
Oui.
Parce qu'il suffit juste d'aller aux urgences dans tel ou tel hôpital de tel quartier populaire, vous voyez tout de suite ce qui s'y passe.
Oui.
Eh ben, ça, moi, ça me fait toujours mal, parce que c'est violent. Et après, il y a un autre élément. Sans faire de polémique, parce que c'est pas forcément l'objet maintenant, mais l'accès notamment à la vaccination, l'accès aux tests, toutes ces choses-là, on s'aperçoit que en fait il y a une vraie différence par rapport au reste de la France. On s'aperçoit que même sur l'idéologie d'être pour ou contre, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une barrière là-dessus. Et ben Et ben ça, ce sont des phénomènes qui en fait qu'on peut plus cacher. C'est la réalité, si vous voulez.
Et comment on lutte contre ça? Comment on lutte contre ça? Comment on fait pour inverser les choses?
Ben vous savez, dans le racisme, par exemple, on parlait du racisme tout à l'heure. Le racisme, il y a beaucoup d'ignorance dans le racisme. Et ben dans des aspects comme celle-ci, comme cela, pardon, il y a aussi beaucoup d'ignorance. Et ça, moi, quand vous avez la chance de côtoyer tout type de milieu, tout type de territoire, on voit une différence. Et moi, ça me parle beaucoup parce que ça me fait mal.
Oui.
Ça me fait mal parce que parfois, c'est trop tard. Mm. Parfois, c'est trop tard. Encore une fois, je ne suis pas là, chacun est libre, chacun est son libre arbitre. Mais encore une fois, nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs, nos enfants sont parfois ont des pathologies qui sont relativement lourdes. Et on le voit qu'en fait, maintenant, avec un virus supplémentaire, oui. Eh ben, on le paye très cher, tout simplement. C'est aussi simple que ça et c'est très malheureux.
Pour revenir sur l'aspect professionnel, vous qui êtes engagé, est-ce que vous savez quel type d'outils, de connaissances et de mesures des discriminations sont développées du côté de l'action publique, par exemple, dans votre ville, selon votre connaissance?
Alors, c'est les outils, alors c'est toujours un vieux débat sur les outils, parce que aujourd'hui, par exemple, on sait qu'on ne peut pas faire de statistiques ethniques.
Bon,
moi, je milite depuis toujours pour qu'on fasse des statistiques territoriales.
Oui.
Alors, territoriales, ça choque personne. Il n'y a pas de couleur de peau, quoi que ce soit, ou d'origine. Notre pays a cette culture, en tout cas le socle républicain, qui est ce fameux universalisme, qui peut avoir ses limites, il faut aussi l'avouer, dans notre réalité aujourd'hui. Mais par contre, la réalité du territoire, c'est-à-dire, moi, par exemple, je milite sur une chose très simple, c'est j'ai toujours milité sur le fait de demander aux acteurs bancaires, par exemple, de publier, non pas les montants, mais les territoires à qui ils ont accordé des prêts professionnels et des prêts particuliers. Et là-dessus, on a jamais été entendu. Je me souviens d'une action qu'on avait menée notamment avec l'Association française des banques, donc qui est un peu l'association qui fait du lobbying pour tous les établissements bancaires.
Oui.
Et sur ce point-là, en fait, ils ont tout de suite refusé. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a de la discrimination même à cette échelle-là.
Oui.
Et je dis pas qu'il faut donner des prêts à tout le monde, c'est pas ça. Mais dans nos territoires, vous avez des gens qui sont formidables, qui ont des projets formidables. Mais la difficulté dans notre pays, c'est que le financement, le premier financement, ce qu'on appelle l'amorçage, en fait, est très compliqué. Et est compliqué parce que lorsque vous êtes enfant d'immigré, vous n'avez pas le patrimoine qui va avec.
Oui.
Lorsque vous êtes issu de ces territoires-là, vous avez d'autres difficultés qui font que vous n'avez pas la capacité de mettre de côté suffisamment d'argent pour vous lancer dans un projet. Il y en a qui le font, et tant mieux si ça réussit. Mais on ne va pas se mentir, c'est beaucoup plus difficile dans nos quartiers populaires qu'ailleurs. Et donc, une des actions que moi, je me bats pour ça, pas tout seul, avec d'autres personnes, je pense notamment à Aziz Yenni, Moussa Camara, pour que justement on puisse lever comme statistique, juste pour ces établissements-là bancaires, nous disent, voilà, nous cette année, nous avons financé tant d'entreprises et elles sont issues de tel territoire.
Oui.
Et là, en faisant ça, en fait, il va se passer quoi? Il va se passer que tout le monde va se rendre compte qu'il y a une véritable discrimination territoriale.
Discrimination territoriale et disparité,
Exactement. Et quand il y a une discrimination territoriale affichée, en fait, la mécanique fait que pour la corriger, en fait, on revoit nos outils, tout simplement. Alors, c'est facile à dire, toujours plus compliqué de le réaliser. Mais moi, j'y crois beaucoup.
Oui.
J'y crois beaucoup parce que c'est important et nécessaire.
Et cela, ça permettrait de lutter contre une discrimination.
Mais après, on peut parler naturellement du logement, tout simplement. Aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de louer ou d'acheter un appartement lorsque vous êtes issu de ces territoires-là, parce qu'il y a une véritable discrimination. C'est délicat, la discrimination, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été faites, pas souvent, là où je pense qu'il faudrait qu'on aille un peu plus loin. Et très souvent, en fait, la charge de la preuve est très difficile à apporter.
Oui, c'est ça, oui.
Ce qui fait qu'en fait, les gens ne risquent pas grand-chose.
Oui.
Et vous savez, l'être humain, il est ce qu'il est. Quand vous risquez pas grand-chose, en tout cas, lorsque vous n'êtes pas tapé au portefeuille, eh bien, vous prenez des libertés, vous continuez à faire des bêtises.
Exactement.
Eh bien, là-dessus, il faut qu'on travaille un peu plus.
Oui.
Encore faut-il qu'il y ait une véritable volonté. Mais après, on va parvenir sur les débats identitaires de notre pays, mais c'est très compliqué.
Oui.
Je pense qu'on nous a beaucoup, excusez-moi l'expression, on nous a beaucoup banané depuis 40 ans sur pas mal de thématiques, notamment sur le racisme.
Oui.
Et donc, du coup, aujourd'hui, on n'avance pas beaucoup, en tout cas très faiblement sur ces sujets-là.
Oui.
Et c'est ce qui fait qu'on est dans des situations où en fait on est clairement en confrontation, clairement avec avec le reste de la population française, et ça c'est pas bon.
Mais alors des solutions, alors pour terminer sur une note plus positive.
Oh ben des solutions, moi je suis convaincu, un optimiste né. Je pense qu'en fait la solution c'est le temps.
Malheureusement, c'est le temps. Farid Temsamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus. Vous êtes aussi le cofondateur du think tank France Fière. Vous avez utilisé l'expression se faire bananer. Dernière partie. À l'approche de la présidentielle, pour ne pas se faire étouffer par le poids d'une droite extrémiste et rigoriste, la solution pour les quartiers populaires, la mobilisation. Vous en conviendrez avec moi, Farid ?
Complètement.
On a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de gauche, ou que les gens, les gauchistes, sont à droite et votent à droite, et que la droite n'est qu'une extrême.
Non, alors je ne sais pas si je le dirais comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la gauche, en fait, a fait beaucoup de mal aux quartiers populaires.
Oui.
Et globalement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble de la France est majoritairement à droite.
Oui.
Alors je pense qu'elle ne le sera pas éternellement. La réalité, c'est que la France est... a toujours été, la France est un pays, d'abord un pays paysan. Faut bien le comprendre, ça,
oui,
à la base.
Oui, faut bien.
Et donc, du coup, la réalité de la terre, comme dans nos pays d'origine, c'est la même chose, en fait, font que l'idéologie qu'on nous a vendue, notamment à gauche, l'idéologie égalitariste,
oui.
si vous voulez, elle peut pas fonctionner avec des gens qui sont issus de la terre.
Oui.
Donc, elle a fonctionné à un moment donné parce qu'il y a eu un idéal qui a été provoqué, je pense aussi, sans revenir jusqu'à la Révolution française, mais au moins au début des années 80,
oui.
la difficulté, c'est que, en fait, on s'est aperçu que c'était les effets. En tout cas, on nous a vendu beaucoup de choses, et finalement, ça n'était pas la réalité, in fine, n'était pas celle-ci. Et donc, du coup, ça frustre. Oui. Ça frustre tout le monde. Hein.
Oui.
Ça frustre les gens qui sont issus des quartiers populaires, comme les autres, tout simplement. Et donc, c'est compliqué. Aujourd'hui, en 2022, on a des thématiques qui sont toujours pas réglées dans notre pays.
Oui.
Moi, je suis, pour être tout à fait franc avec vous, je suis pas contre. Je suis loin d'être contre le fait de ne pas aborder ces questions-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage d'aborder tout, même si ça nous déplaît.
Oui.
Parce que tant qu'on le fait pas, vous allez avoir ce type de thématiques qui vont ressortir éternellement, tout simplement.
Quel type de thématiques ?
Eh bien, moi, j'ai une thématique sur laquelle je travaille depuis pas mal de temps maintenant. Elle est toute simple. C'est qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ?
Justement, parlez-nous de ce
très souvent, et là, c'est là.
France Fière.
Par exemple, nous, quand on a créé ce think tank France Fière, c'était l'idée de dire on peut être issu des quartiers populaires, issu de l'immigration, tout ce que vous voulez, et on peut être tout à fait fier d'appartenir à la France. Et en même temps, il faut que le reste de la population française puisse comprendre également qu'il faut qu'il soit fier de ces territoires-là et de ces habitants-là.
Oui.
La France, en fait, est construite sous un modèle qui est ce qu'on appelle l'universalisme républicain.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ne met pas on n'affiche pas les différences, mais en fait, ce qui compte, c'est d'être citoyen d'un pays. Et ça, la difficulté, c'est qu'on nous a vendu, depuis 40 ans maintenant, on nous a vendu l'inverse, en fait. Et donc, c'est compliqué de faire marche arrière. C'est même quasiment impossible aujourd'hui. On nous a dit, écoutez, vous avez le droit de rester comme vous êtes. Or, en réalité, ça n'est pas possible dans un pays comme la France.
Mmh.
Et ça, aujourd'hui, quand il n'y a pas eu la pédagogie qui va avec, les gens ne comprennent pas. Donc, ils ne comprennent pas les sujets qu'on aborde aujourd'hui.
Mmh.
C'est pour ça que je suis favorable à ce qu'on les prenne vraiment et qu'on arrête de faire semblant que c'est forcément, quand quelqu'un parle de l'immigration, c'est forcément du racisme.
Oui.
Non, pas du tout.
Oui. Oui, c'est ça, c'est la grande question. Pourquoi on entend un candidat à la présidentielle parler d'immigration et qu'on est noir, mais pourtant on est en France, on se sent concerné. Ça,
c'est fou, hein. C'est hallucinant. Alors qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes de couleur, effectivement, vous êtes français comme tous les autres, et vous réussissez votre vie, vous avez des enfants, des petits-enfants, à un moment donné, vous êtes français, point, à part entière. La difficulté, c'est qu'on n'a pas réussi à faire cet amalgame-là, c'est-à-dire du projet France. Mais pourquoi ? Parce que, un peu comme dans nos pays d'origine d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, en tout cas on parlait régulièrement, par exemple, du racisme qui existe dans nos pays d'origine. Parce que ce sont des pays qui ont une histoire, ce sont des pays qui ont une population donnée. Et la France, en fait, elle a été, je vais utiliser un mot qui va choquer encore une fois, parce que il est mal interprété, malheureusement, dans le débat. C'est l'assimilation, en fait.
Oui, l'assimilation.
La France, en fait, sa culture est assimilationniste.
Mmh.
La difficulté, c'est que ces 40 dernières années, on a arrêté avec ça. Et donc, du coup, oublier l'élection présidentielle, oublier les, les candidats, les différents candidats. La difficulté, c'est que même certaines personnes considèrent que même lorsqu'on évoque ça, même à gauche, on est taxé d'extrême droite, par exemple.
Oui,
alors que c'est, l'assimilation est un idéal républicain, c'est un idéal de gauche, à la base. Il faut bien comprendre ça. C'est quoi l'assimilation? C'est de dire, écoute, moi je me fous de savoir quel prénom, de quelle origine tu es. Ce qui compte, c'est que tu sois en France et que tu contribues à la richesse du pays. C'est ça. Or, aujourd'hui, comme on ne l'a pas vendu sous cet angle-là, aujourd'hui c'est très compliqué lorsqu'on aborde ces sujets-là, parce que tout de suite, vous allez être taxé d'extrême droite et vous avez des gens qui vont manipuler aussi les gens pour ça. Dans un sens comme dans un autre.
Justement.
Vous avez des gens qui vont être manipulateurs à l'extrême droite et d'autres qui vont être manipulateurs à l'extrême gauche en disant attention, lorsqu'on aborde ce sujet-là, c'est qu'on est forcément raciste.
Oui.
Et ben moi, je ne pense pas.
Bah, vous parlez de manipulation. Comment justement lutter contre ces manipulations? Comment sont mobilisées les banlieues populaires à l'approche donc, de la présidentielle dans 3 mois, il y a des initiatives. Il y en a de très nombreuses. On a notamment ce Tour de France. Du collectif Passons-nous, qu'on aura d'ailleurs le plaisir d'accueillir dans quelques semaines sur Africa Radio, qui se présente comme un porte-voix des quartiers populaires et qui lance donc une caravane qui ira donc à la rencontre des citoyens un peu partout à l'approche donc de cette présidentielle. Comment se mobilisent les banlieues populaires par d'autres initiatives? Farid, vous avez d'autres exemples à nous donner, à nous faire?
Oui.
Est-ce qu'actuellement vous les trouvez éveillés ou plutôt très observatrices et dans le retrait?
Alors c'est dur ce que je vais dire. Les quartiers populaires ont toujours été un peu plus éveillés que le reste de la population française sur différents sujets. Parce que notamment la politique internationale a fait éveiller les gens beaucoup plus facilement.
Oui.
Mais aujourd'hui, finalement, on est à l'image du reste de la population. C'est-à-dire qu'on est très déçu par la politique au sens large. Et donc, du coup, on s'intéresse de moins en moins, on y croit de moins en moins, malheureusement. Donc, moi, je salue les initiatives comme celles que vous avez citées. On en fait partie également à Banlieue Plus de ce type d'initiative.
Oui.
Il y a localement, dans toute la France, plein d'initiatives comme celle-ci. Et qu'est-ce qui fera changer tout ça? C'est uniquement si les gens comprennent que potentiellement ils ont un poids à jouer dans les thématiques et dans l'enjeu qui est l'élection présidentielle.
Merci beaucoup Farid Temsamani, porte-parole de l'association
Banlieue
Plus et cofondateur du think tank France Fier, d'avoir répondu à nos questions dans Comment me vivre au 21e siècle. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute d'Africa Radio.
Au revoir, à bientôt.
À bientôt.